Bonjour. Ça fait plaisir de voir cette église qui grandit chaque dimanche. On est passé de 50 à 65, 80 aujourd'hui. On se demande où est-ce qu'on va s'arrêter. Hein. C'est magnifique. En tout cas, moi, c'est le premier dimanche où je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de visages. Ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai plus revu et ça me fait vraiment profondément plaisir de vous revoir souriant et puis content d'être là pour partager ce moment. Tous ensemble, parce que nous sommes presque tous là, et je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Bienvenue, et ça me fait aussi plaisir de vous imaginer derrière l'écran, peut-être même souriant, à nous voir tous réunis ici. Alors moi, j'ai 41 ans, puis je ne vais pas dessiner, parce que sinon ce sera un peu compliqué, vous aurez tout de suite vu pourquoi. Merci beaucoup pour cette initiative, c'est excellent. Puis c'est là qu'on voit que même si on dit que l'église, ce n'est pas le bâtiment, il a quand même une petite importance. Hein. L'église, c'est quoi? J'ai intitulé ce matin Tout cela. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Vous pouvez dire, ah non, vous n'avez pas le droit de parler. George Floyd, ouais. George Floyd. Ce monsieur, finalement, est devenu célèbre alors que c'était un anonyme. Il est devenu célèbre dans des circonstances tragiques. C'est un anonyme qui devient tout à coup quelqu'un, un homme dont aujourd'hui tout le monde a entendu parler. Cet homme est mort sous les coups d'un agent de police le 25 mai à Minneapolis, une grande ville des États-Unis. Il venait de déménager là parce qu'il venait de trouver un travail dans cette ville, à Minneapolis, et il avait 47 ans. Et dans un article du quotidien américain qui s'appelle Christianity Today, qui suit l'actualité chrétienne, c'est un peu notre christianisme aujourd'hui, mais à bien plus large échelle. On apprend qu'il était un membre apprécié d'une église évangélique à Houston, au Texas, et qu'un de ses services préférés, un de ses ministères préférés dans son église locale, c'était d'aller dans les quartiers chauds de la ville de Houston pour aller apporter l'évangile de la paix. Évidemment, parce qu'après coup, on a toujours tendance un peu à glorifier, ce n'était pas un homme parfait, évidemment. Il était pêcheur comme vous et moi. Toujours est-il que son destin a ému et touché des millions de personnes à travers le monde, dont moi. Même la Suisse s'y est mise, avec des manifestations dans différentes villes romandes et même alémaniques. Je ne me prononcerai pas sur le bien-fondé des manifestations en tant que coronavirus, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est que son destin n'a laissé personne indifférent ces derniers temps. Et une des manières de montrer la solidarité avec ce destin particulier qui visiblement rejoignait beaucoup plus large, c'était de mettre sur les réseaux sociaux simplement une image noire en signe de solidarité avec ce qu'il a pu vivre. Là, c'est un de mes joueurs de basket préférés qui s'appelle LeBron James, qui l'a mis et à la suite de ses leaders d'opinion, des millions de personnes ont mis cette image noire pour dire qu'une solidarité avec ce qui s'est passé avec cet homme à Minneapolis. Impressionnant de se dire que c'est un endroit précis, dans un contexte précis, qui aurait pu rester complètement sous le radar, et tout à coup, une explosion de sympathie, de solidarité, qui, j'espère, va encore faire bouger les lignes. Et là, notre foi, d'après moi, peut rentrer en jeu. Je crois qu'avec la fameuse crise du corona, c'est le point saillant de l'actualité qui nous a resté ces dernières semaines. Si je dois déterminer deux, il y a effectivement cette crise et ce destin de George Floyd qui, j'espère, va faire bouger les lignes. Et un mot est souvent revenu dans ce contexte, c'est le mot de racisme, ou plutôt stop au racisme. C'est un thème qui paraît encore très fortement ancré dans la société américaine, mais qui trouve, et qui malheureusement trouve encore un certain écho dans nos sociétés européennes, et même dans notre société suisse. Le racisme, finalement, dans la définition stricte, c'est affirmer qu'il y a une hiérarchie entre les races, qu'une est supérieure à l'autre. Donc on peut avoir différentes formes de racisme, mais souvent dans l'histoire, ça a été un racisme blanc supérieur à noir. Et le risque, je crois, avec le racisme, c'est de s'en tenir soit à une définition très stricte, et puis on se dit que finalement, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cet ordre des choses, finalement, puis on n'est pas à l'aise avec ça. Mais dans l'ordre inverse, c'est aussi de tout considérer comme étant raciste. Donc ce matin, on va essayer de naviguer entre ces deux éléments, puis de voir qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que chrétien. Parce que le racisme est apparenté à d'autres notions qu'on entend peut-être beaucoup plus fréquemment, la notion du rejet de l'autre, la méfiance, voire l'hostilité par rapport à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la xénophobie. Et là, c'est nettement plus présent dans l'espace public, il suffit qu'il y ait une votation, et puis on voit apparaître comme en flèche ces notions-là qui reviennent inlassablement. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de progrès dans l'histoire humaine, même si j'espère voir une courbe de progression, ça revient quand même inlassablement quand on touche ces sujets-là. Ça, c'est le constat dans lequel nous sommes, c'est le monde dans lequel on baigne tous les jours, et puis c'est le monde dans lequel on vit, et puis que nous habitons en tant que chrétiens. Alors ma question ce matin, c'est qu'est-ce que moi, chrétien, j'ai à dire là-dessus ? Qu'est-ce que le pasteur que je suis dans cette ville ici à Nyon peut dire là-dessus sur cette problématique qui nous touche tous ? Est-ce que nous sommes vraiment concernés par ces sujets-là ? Il n'y a pas des sujets peut-être plus importants, plus spirituels que cela. Et en décidant d'entamer cette série sur « C'est quoi l'Église ?», c'était assez frappant de voir que ce sujet d'actualité, vous allez le voir, colle parfaitement à une des manières de voir l'Église fondamentale que j'aimerais vous partager ce matin. Christianity Today, toujours le même journal, a réalisé un sondage auprès des pasteurs pour savoir différentes choses. Qu'est-ce qu'ils pensaient ce que l'Église devait faire par rapport au racisme ? Alors, 92% d'entre eux pensent que l'Église doit dénoncer le racisme. Et même 62% des églises aux États-Unis ont publié un communiqué sur leur site Internet pour dire que par rapport à cette situation de George Floyd, ils s'en distançaient et qu'en tant que chrétien, il était normal de s'en distancer. Et puis le journaliste qui a fait l'article, c'est assez intéressant, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il est allé un peu avant la situation où les émotions montent et puis il a regardé un sondage qui datait de janvier 2020. Et là, il est tombé sur une autre enquête qui demandait aux croyants s'il était judicieux pour les croyants de se positionner contre le racisme. Et là, surprise pas forcément agréable, seuls 40% des chrétiens blancs pensent que c'était juste de le faire en tant qu'Église. Il y a une petite différence entre 39% et 92%, comme quoi les circonstances peuvent un peu faire bouger les lignes. Reste à voir si ces lignes qui bougent vont être profondes ou pas. Alors, on fait quoi avec tout ça ? Au-delà des chiffres et des sondages, je nous invite à revenir à l'essentiel, à revenir à la parole. C'est là qu'on trouve notre inspiration encore plus que dans les sondages et dans les chiffres. Et puis, voir ce qu'elle nous dit. Et un des textes fondamentaux pour dire ce qu'est l'Église et puis pour nous éclairer par rapport à cette situation, on le trouve dans une lettre qu'un certain Paul a écrite à une église qui était en Galatie. C'est une contrée dans la... Je ne sais même plus exactement, donc je ne vais pas m'y regarder, mais je crois que Turquie ou Grèce, par là autour. Et puis, une église qu'il a fondée, puis pour rester en contact, il défendait souvent un modèle d'église, c'est-à-dire un modèle pour être ensemble. Et nous allons voir à travers ces quelques lignes de Paul qu'il nous en dit beaucoup sur ce qu'est l'église. Je lis dans Galates 3, les versets 25 à 29. La foi en Christ étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant, car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu et filles de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. L'Église, c'est quoi ? C'est un grand mélange. Dieu décide, et ce n'est pas nous qui avons décidé, ce n'est pas Paul le fondateur de l'Église, c'est Dieu le fondateur de l'Église. Il prend simplement acte de ce que Dieu a fait dans les cœurs. Parce que quand on dit que Paul a fondé les églises, il a simplement proclamé le Christ, puis ensuite il y a différentes personnes qui sont venues vers lui et qui se sont dit « cette proclamation me touche ». J'ai envie de faire partie de cette communauté. Ce n'est pas lui qui a commencé à faire sa sélection, puis qui a fait l'église Paul, point, je ne sais pas quoi, et puis qui a fait sa propre compagnie. C'est Dieu, par la proclamation de Paul, qui a réuni ces personnes de tous horizons, et il l'a décidé dans sa suprême volonté. Donc l'église, elle ne se construit pas d'elle-même, on l'a vu, elle se construit par l'action de Dieu, et Dieu choisit, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas, il choisit de mélanger tout le monde. Point. C'est un fait, c'est comme ça. Dieu décide dans sa souveraine volonté de mélanger toutes sortes de races, toutes sortes de religions même, toutes sortes de classes sociales, toutes sortes de classes d'âge. C'est comme ça. On ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas aller plus haut. C'est comme ça, c'est le socle sur lequel Dieu a décidé de construire son Église. Et nous, comme croyants, nous sommes appelés à la vivre ainsi. On ne doit pas se poser des questions sur savoir si oui, quoi, non. On est appelé à la vivre ainsi. L'Église, c'est donc un grand mélange, un grand brassage voulu et désiré par Dieu. On pourrait considérer qu'on aimerait bien voir les choses de manière plus équilibrée, peut-être un peu plus de ci, un peu plus de ça. Non. C'est la base sur laquelle nous devons vivre et c'est la base sur laquelle nous sommes appelés à vivre. Alors, partant de là, c'est assez facile pour nous de dire qu'en tant que chrétien, qu'en tant que disciple du Christ, je ne peux qu'être contre le racisme. Je ne peux que dire stop au racisme. Ça paraît un peu bateau de le dire comme ça. Ça me paraît aussi important de pouvoir l'affirmer des fois du haut de la chair. Parce qu'on se demande si c'est une raison humaine, si c'est la société qui pourrait nous influencer. Mais je dirais que nous, ça fait une aspiration beaucoup plus vieille que cela. C'est de se dire, dès le début de qui nous sommes en tant qu'Église, nous sommes sur un logiciel différent. Tout simplement. Et puis si on regarde un tout petit peu notre histoire d'Église, on doit dire qu'on doit l'apprendre avec beaucoup d'humilité parce que pas... toujours, on a utilisé ce logiciel différent. Pas toujours, l'Église a été un exemple absolument extraordinaire de se dire qu'on a utilisé un logiciel différent de ce qui pouvait se passer dans la société. Et ça, ça doit nous interpeller, parce que comme je l'ai dit, c'est des éléments qui reviennent périodiquement. Il suffit qu'il y ait une votation, puis on voit que la température monte, un peu comme ce matin dans la salle. Mais c'est nous, en tant que chrétiens, je pense que là, on a un rôle à jouer d'être ces baisseurs de température, puis se dire notre logiciel est clairement différent et on ne va pas aller sur ces questions-là. On ne va pas se laisser embrigader dans des formes même gentillettes de méfiance ou de rejet de l'autre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible en tant que croyant. Parce que Dieu n'a pas voulu une église qui fonctionne avec des hiérarchies. Alors quand ça remontera, parce que maintenant c'est facile de le dire, on se dit bon, on est dans une vague plutôt positive qui va dans le bon sens, mais quand ça remontera, et ça va remonter, que nous puissions nous souvenir de ce fondement-là qui va nous influencer et qui va déterminer notre pensée et notre action. Martin Luther King a prononcé cette phrase forte dans le contexte dans lequel il était, « Le christianisme répudie le racisme. Les préjugés raciaux sont une négation criante de l'unité que nous avons en Christ. » Car en lui, il n'y a plus ni juif ni païen, ni esclave ni homme libre, ni noir ni blanc. Nous sommes unis en Christ. Et c'est mon deuxième point, c'est l'Église, c'est quoi ? C'est un grand mélange, mais ce n'est pas le grand mélange pour le grand mélange. C'est le grand mélange qui est uni à un seul et même sauveur. Un grand mélange qui est uni au Christ. On n'est pas là pour faire une société qui serait multiculturelle puis qu'on trouverait ça comme projet politique intéressant. Ce n'est pas ça le but. On est unis au Christ parce que le Christ appelle le monde entier, que ce soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle classe sociale. Et ce matin, on l'illustre d'une certaine manière. On l'illustre dans notre lieu de vie, Nyon, que nous sommes cette Église-là que Dieu appelle, quelle que soit notre origine. Ce n'est pas une surprise, je pense, phénoménale, tout ce que je vous raconte, mais pour la Bible, c'est absolument clair et nous voulons la suivre. Alors, une fois cela posé, on se rend compte que ce n'est pas forcément si évident à vivre de manière concrète. Et j'aimerais vous parler un peu de quelqu'un qui m'a aussi beaucoup influencé, quelqu'un qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, que vous voyez là, qui a fondé dans l'Allemagne nazie des années 30 un petit séminaire de formation théologique. Je dis petit parce que, quand je vous disais que dans l'histoire de l'Église, ce n'était pas toujours très brillant, ils étaient très peu de chrétiens à s'être révoltés contre le pouvoir nazi. Puis on ne peut pas trouver plus important en termes de racisme que le pouvoir nazi. Et le fait est que la grande majorité des chrétiens en Allemagne à ce moment-là ont été pris par cette vague impressionnante du nazisme et s'y sont liés de près ou de loin. En tout cas, ils n'ont pas été contre. Ils n'ont pas dénoncé, mis à part quelques petits groupes qu'on a retrouvés certainement après la guerre. Parce que Dietrich Bonhoeffer a payé de sa vie cette résistance-là. Et puis, il a payé de sa vie cet engagement à la suite du Christ. Et puis, dans un séminaire à Finkenwalde, là, que vous allez partenir, ça, mais c'est pas important, il a essayé de créer une communauté qui restait fidèle à cet élément de base-là, de simplement se dire qu'il n'y a pas ni juif ni grec, qu'il n'y a ni allemand ni autre race, il n'y a ni juif ni grec. Il a simplement essayé de mettre en pratique ces éléments-là. Et c'était d'une difficulté abyssale. Et ils étaient un tout petit groupe. Il a écrit un livre de cette expérience-là que, comme on est à la veille des vacances d'été, je ne peux que vous conseiller de lire parce que ça va vous fonder dans votre compréhension de ce qu'est l'Église. C'est une source d'inspiration qui, pour moi, est presque intarissable. Ce qu'il a appris là, vous le retrouvez dans ce livre qui s'appelle « De la vie communautaire ». Et il a vraiment des impulsions qui sont décisives sur ce que nous avons à vivre en tant que communauté. De la vie communautaire, prenez-le, il est chez Payot, et vous en serez reconnaissant de le méditer pendant ces vacances d'été. Et en gros, voilà ce qu'il nous dit dans ce livre. Nous ne sommes pas réunis parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes pieux, mais nous sommes réunis parce que Dieu l'a voulu. La communauté ne se maintient pas par nos vues sur elle-même, mais la communauté se maintient par le Christ lui-même. Et finalement, nous aimerons notre frère et notre sœur, quel qu'il soit, non par notre propre force, mais par celle de l'Esprit. Je leur lis une fois, nous ne sommes pas réunis parce que nous sommes bons ou pieux, mais parce que Dieu l'a voulu. La communauté se maintient non par nos vues sur elle, mais par le Christ lui-même. Et nous aimerons notre frère ou notre sœur, non par nos propres forces, mais par celles de l'Esprit. Il y a énormément de choses là derrière. Mais premièrement, de se dire que si on est encouragé à se mélanger, si on est encouragé à vivre différemment, ce n'est pas parce que c'est notre projet d'Église puis que je suis en train de le porter, mais c'est parce que c'est le projet que Dieu a voulu pour l'Église. Ce n'est pas le projet que nous seuls pourrons se tirer les bretelles puis se dire « on y est arrivé », mais c'est simplement parce que nous serons animés de cette force qui nous pousse vers l'avant. Et la manière de rentrer dans cette communauté, ça fait un lien avec ce que nous allons vivre dimanche prochain, c'est de passer par le baptême. Paul nous dit dans ce texte « vous tous qui avez reçu le baptême, vous êtes intégrés à cette communauté que vous n'avez pas choisie ». Vous êtes intégrés parce que vous êtes décidé de vous mettre à la suite du Christ. Le baptême, il est reçu. Il n'est ni obtenu, ni mérité. Il est reçu. Et c'est pour ça que j'insiste dans les formations au baptême, parce que souvent il y a l'expression « je me fais baptiser ». Mais c'est « je me suis fait baptiser », parce que ce baptême, on le reçoit. On le reçoit de quelqu'un d'autre qui nous dit « oui, la bénédiction, elle est sur toi, parce que tu as décidé de suivre fidèlement le Christ ». Et ainsi, avec ce baptême, Paul nous dit, dans la suite du verset, vous avez reçu ce baptême, et à la suite de ce baptême, vous êtes capable de revêtir le Christ. Je ne sais pas si vous avez noté cette expression, elle est très intéressante. À la suite de ce baptême, non seulement vous entrez dans l'Église, dans cette communauté qui vous dépasse et qui me dépasse, mais on est invité à revêtir le Christ. Ce mélange en étant uni au Christ est une manière de le revêtir. La marque de fabrique du chrétien, c'est de revêtir le Christ. Et la vocation de l'Église, c'est d'être vraiment ce signe du royaume-là, de porter finalement, publiquement, parce qu'un vêtement, ça se porte pour que les autres le voient, on doit porter le Christ et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et là se pose typiquement la question de notre positionnement en tant que chrétien. Avec ce cas concret, par exemple, stop au racisme. Et là, je donne un exemple de quelqu'un qui est dans la salle, qui a aussi mis cette image sur les réseaux sociaux avec encore un cœur pour signifier l'amour qui nous anime. Mais on voit qu'à certains moments, et si on prend au sérieux cette idée de revêtir le Christ, je pense qu'à certains moments, en tant que croyant, en tant qu'Église, on est appelé aussi à se positionner. On n'est pas simplement appelé à laisser le manteau du Christ pour le dimanche où on le met, puis là on affirme nos valeurs. Je pense que ce manteau du Christ, ce vêtement du Christ que nous sommes appelés à revêtir, on le porte presque naturellement, parce qu'on ne se pose pas la question le matin de savoir si on va s'habiller ou pas, on le porte naturellement là où nous sommes. Et je crois que ça a pas mal de sens dans ce qu'on dit dans l'espace public. Ça a pas mal de sens dans ce qu'on est appelé à témoigner de ce que le Christ a fait dans ma vie et dans nos vies en tant que communauté. Alors je nous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche parfois de témoigner? Qu'est-ce qui nous empêche parfois de manifester simplement ce qui se vit au quotidien dans notre église, dans notre communauté, là où nous vivons ce mélange et ce magnifique brassage? Je nous laisse ces questions, je nous interpelle sur notre manière de nous positionner, sur notre manière de revêtir le Christ, ou finalement de s'en distancer en pensant que ce n'est pas notre rôle en tant que chrétien. Et je suis en phase avec les mêmes questionnements que vous. Ce n'est pas des questionnements qui sont évidents. Et je terminerai par cette petite observation que Paul fait dans cette lettre aux Galates, toujours dans les mêmes versets qu'on médite ce matin. J'aime bien ce verset 25 qui nous dit, je vous le remets parce qu'on ne s'en souvient peut-être pas, « La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. » Et ensuite, il continue un peu plus loin dans l'Épître, « mais qui nous permet d'agir en toute liberté. » Et je crois que c'est fondamental à rappeler quand on se positionne. Dieu n'est pas là pour être un surveillant qui nous dirait quoi faire et puis ensuite nous examiner suivant ce qu'on a fait. Mais il nous donne cette force intérieure et communautaire pour se dire « je vous donne cette force, allez-y les amis, revêtez ce que moi je vous ai donné. » Revêtez dans votre vie de tous les jours ce mélange, par exemple, que je veux pour l'Église. Allez-y en toute liberté. Je ne suis plus là comme un surveillant, mais je suis quelqu'un qui vous donne cette liberté d'agir en vous revêtant de moi-même. Ça nous donne une sacrée puissance et une sacrée confiance. Ce n'est pas un truc anodin. Ça nous donne l'énergie d'aller de l'avant. Alors, comment est-ce que je vis ce mélange? Comment est-ce que je le favorise? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ce magnifique mélange que je vois devant moi en direct ce matin? Et c'est une belle chose. Comment est-ce que j'essaye, par peut-être des petits actes, de le favoriser et puis d'aller au-delà? On a eu une belle expérience, et je vais terminer là-dessus pendant ce confinement, c'est que parfois on a fait des apéros Zoom. Je ne sais pas si vous avez participé à ce genre de techniques nouvelles, mais on était, je crois, une cinquantaine la première fois qu'on a fait ça. On était tous contents de se revoir derrière nos écrans, on faisait tous comme ça, là, ça allait plus ou moins bien, il y avait des sons qui étaient plus ou moins forts. Et à un moment donné, quelqu'un qui est aussi dans la salle, que je ne vais pas nommer pour ne pas... Non, c'était Sébastien, il a simplement cliqué sur un petit bouton et il a séparé tout ce beau monde de manière aléatoire. Et j'ai trouvé très intéressant comme expérience du mélange au sein de la communauté. Parce que pour une fois, on n'a pas choisi vers qui on allait à la sortie du culte. C'est quelqu'un d'autre, un élément extérieur, un bouton Zoom, qui nous a placés dans des chambres avec 3 ou 4 autres personnes que l'on ne connaît pas. Et je pense que ça peut être une belle illustration pour nous, en tant que communauté, de se dire quel pas est-ce que je peux essayer de faire dans cette direction de mélange avec des personnes que je n'aurais pas forcément choisies. Parce que Dieu, dans sa volonté, il a réuni des personnes que l'on n'a pas choisies et pourtant que l'on côtoie comme des frères et des sœurs, que l'on côtoie au sein de la même famille. Alors, on y va joyeusement. Thomas nous a dit que quand on vivait de l'esprit, une des caractéristiques, c'était la joie. Alors, allons-y joyeusement dans ce beau mélange et qu'on soit bénis tous ensemble à vivre l'Église. Amen.
Je... j'allais vous dire, vous pouvez pas chanter, alors vous...